Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Un podcast exceptionnel, puisque nous serons quatre cette semaine. Je serai en compagnie de Morwen.
Salut.
D'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Ben.
Salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un mod qui s'appelle Deus Ex Revision. On enchaînera ensuite sur un copier-coller. On parlera par ailleurs des annonces qu'a fait Xseed cette semaine. Nous évoquerons également l'argent qui a été mis sur la table par Nintendo pour Niantic. On parlera du Season Pass de Star Wars Battlefront. On enchaînera ensuite sur les pré de jeux qui sont apparemment en hausse, mais on verra dans quelle proportion, n'est-ce pas? Nous évoquerons un record, un nouveau record de Star Citizen, n'est-ce pas? Encore un, j'ai envie de dire. On parlera de Steam Link, et enfin, pour terminer, on passera à l'instant rumeur, n'est-ce pas? L'instant rumeur sur la Nintendo NX. Vous verrez, c'est fort intéressant si ça s'avère vrai. Allez, messieurs, nous allons donc commencer avec Deus Ex Revision, et c'est donc moi qui vais prendre la parole pour vous parler de ce mod. Alors, Deus Ex Revision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'un de ces projets que je qualifierais, ma foi, de formidable, n'est-ce pas? Parce que c'est un mod, en gros, qui révise totalement Deus Ex. Ils refont tous les graphismes, ils refont la bande-son, ils retravaillent les niveaux. Bref, c'est un mod qui est absolument énorme, et surtout, Square Enix a une réaction intelligente vis-à-vis de ce mod. Le mod a le consentement de Square Enix et il a été publié, attention, sur Steam, gratuitement.
Ouh.
Et ça, c'est suffisamment rare pour être noté. Et moi, je dis Square Enix, chapeau, enfin, un éditeur qui n'a pas une réaction totalement conne vis-à-vis des mods.
Ah oui, c'est bien.
Ça change de Konami par rapport à MGS qui avait dit « Ah, vous voulez refaire Metal Gear 1 et Metal Gear 2 ? Allez vous faire foutre.
» Lol, nope. Alors, question du coup pour le néophyte qui n'a jamais trouvé le temps de jouer à Deus Ex, est-ce que c'est un jeu qui en avait besoin ?
Oui, alors si tu veux, en fait, actuellement, Deus Ex Revision, il ressemble, je pense, pour la plupart des gens, à ce qu'ils avaient dans leurs souvenirs. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, tes souvenirs ont tendance à embellir les choses, quoi, on va dire. Et puis quand tu lances le jeu, t'as un truc totalement dégueulasse, avec des textures dégueulasses, des modélisations très carrées. Et là, on peut le dire, Deus Ex Revision, eh bien, il donne un coup de jeune dont jeu avait fortement besoin.
D'accord.
Même, tu sais, en termes de level design, je pense qu'il y a certaines zones au début, ou même la dernière partie du jeu qui était, on va dire... entre guillemets, un peu bâclé. Enfin, par rapport au reste du jeu, on va dire que c'était un ton en dessous, quoi. Mmh. Et j'espère vraiment qu'ils ont bossé cette partie pour faire quelque chose de qualité, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui n'y seraient incultes, quand même, je rappelle, Deus Ex, c'est un successeur à System Shock 2. System Shock 2, c'est un peu le jeu qui a inspiré tous les grands noms que sont BioShock et compagnie, voilà. Donc, Deus Ex, hybride FPS et RPG, dans un univers cyberpunk futuriste avec une bande son qui défonce sa race. D'ailleurs, si j'avais une critique à émettre par rapport à ce mode, c'est que j'ai réécouté quelques réorchestrations qu'ils ont faites et personnellement, je suis pas fan. Mais bon, après peut-être que la nostalgie joue, je ne sais pas, c'est une affaire de goût, mais aussi peut-être qu'il y avait des histoires vous savez de droit sur la bande son, tout ça. Donc, bon, bref. Dans tous les cas, c'est un mode où il y a eu un boulot énorme qui a été abattu. Ils ont vraiment agrandi certaines maps apparemment, ils ont vraiment rebossé tout le level design. C'est pas juste des graphismes quoi, c'est vraiment un jeu complètement repensé en fait. Foncez et rappelez-vous l'adage de sexe, à chaque fois que quelqu'un en parle, quelqu'un le réinstalle.
Ce qu'ils ont rajouté aussi par rapport à l'original, ils ont retravaillé par exemple la première map, la Statue de la Liberté. Avant, ouais, c'était vraiment un terrain assez plat et puis il n'y avait pas beaucoup de décors. Ils ont rajouté des éclairages, des bandes pour faire comme si c'était la vraie Statue de la Liberté avec des bancs et tout ça. Alors que dans le premier Deus Ex à l'époque, c'était vraiment, c'était lisse.
Tu vois la Statue de la Liberté, tu dis non, il y a quand même un peu plus de trucs que ça. C'est
ouais,
un peu plus chargé, quoi.
Et puis aussi, ce que j'ai vu, ils ont aussi retravaillé les éclairages. Ils ont enlevé tout ce qui était cette couleur, un peu ce filtre bleuté qu'il y avait dans le premier Deus Ex.
Mm-hmm.
Là, ils ont essayé de donner des couleurs un peu plus naturelles. Après, quand même, on voit que le jeu accuse le poids de son âge, parce que c'est quand même assez moche. Enfin, entre guillemets.
2001, donc bon, voilà quoi.
Tu vois, par exemple, le travail qui avait été fait sur le premier Half-Life, qui avait été totalement retravaillé, et là, on pouvait dire que c'était vraiment deux jeux différents en termes de technique pure. Là, tu vois que quand même, ça reste sur le même moteur, mais on va dire un peu plus lissé.
Avec des meilleures textures et des nouveaux modèles, quoi. Mais effectivement, c'est le même moteur. Mm. Bref, messieurs, quelque chose à rajouter ?
Non.
Non, ça m'a l'air intéressant tout ça quand même.
Voilà.
Tu pourras peut-être le lancer hein, un jour.
En tout cas, si vous ne l'avez pas fait de sexe, franchement, faites-le, c'est un monument du jeu vidéo pour moi. Ça fait partie de mon top 10 ever, c'est énorme. Ça fait partie de ces jeux, si vous voulez. À l'époque où ils sont arrivés, ils ont révolutionné un truc, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, messieurs, nous allons maintenant parler d'un copier-coller, mon cher ATH.
Donc, le nom, c'est Pray for the God.
Pray comme proie, hein, pas prier. Enfin, j'ai un doute en remarque. Mordren, ton interprétation linguistique de Pray.
Oui, c'est ça. Prier en anglais, c'est P-R-A-Y, et là, c'est P-R-E-Y.
Voilà.
Donc, c'est bien une proie pour les dieux et jeu de mots avec prier.
Voilà.
Hashtag jeu de mots.
Excuse-moi, TH. C'est l'instant culture.
Non, mais je vous en prie, vous avez bien fait. Alors, copier-coller, pourquoi on dit ça? Tout simplement car la vidéo de présentation nous montre quelque chose qui ressemble fortement à Shadow of the Colossus, mélangé avec du Rise of the Tomb Raider. Il y a beaucoup d'inspiration, on va dire, des gros succès de ces dernières années.
Après, qu'un jeu s'inspire de pas mal de choses, ok, moi personnellement, le début m'a pas trop choqué. Enfin voilà, c'est un jeu de balade, bon que ça ressemble à Tomb Raider, c'est pas forcément choquant. Mais par contre... Au moment où on est en mode Shadow of the Colossus, là, le copier-coller est tellement flagrant et tu dis, putain, sérieux, les mecs, quoi, c'est chaud, quoi. T'as même certaines animations, t'as l'impression de retrouver Shadow of the Colossus, quoi. Quand il grimpe sur le colosse par derrière et tout, enfin, c'est Shadow of the Colossus, clairement.
Non, mais clairement. Le pire, c'est que, comme tu l'as dit, le design du colosse, il est tel que quasiment la même tête que le premier colosse que t'affrontes dans Shadow of the Colossus.
Voilà.
Et là, les mecs, tu dis... Bon, au moins, si vous copiez, faites-le bien. Essayez d'être un petit peu original en prenant des designs qui... Pas le même design que le jeu dont vous inspirez. Mais là, ils ont pas honte, quoi.
Personnellement, je suis curieux, quand même, parce que j'ai apprécié Shadow of the Colossus. Après, enfin, sérieux, quoi. À un moment donné, il faut être un peu original, quoi. Je sais pas, engager un artiste qui fait autre chose que du Shadow of the Colossus, quoi. Sérieux.
Non mais la question c'est pas tant le copier-coller, c'est qu'est-ce que ça va apporter au gameplay de Shadow of the Colossus au final, parce que si tu te réclames visuellement et en termes de gameplay d'un jeu vidéo, il faut aussi faire avancer le schmilblick, parce que je me rappelle plus quand est-ce qu'est sorti Shadow of the Colossus, mais ça fait au moins 10 ans peut-être.
Je crois que c'est 2006.
Ouais,
je crois.
Peut-être un peu moins. Et au final, qu'est-ce que tu apportes avec la génération HD à un système comme celui-ci? C'est ça la question à laquelle les développeurs vont devoir répondre.
Alors, en gros, moi, j'ai l'impression que la seule nouveauté, finalement, c'est ce qu'ils ont pompé sur Tomb Raider, c'est-à-dire les phases de balade où tu croises des loups, enfin, des conneries comme ça, quoi.
Ouais, c'est un Shadow of Colossus dans un gameplay plus moderne, on va dire, dans le sens où pseudo open world où tu peux te balader, etc., quoi. Enfin, on a vu qu'une vidéo, mais ça fait un peu penser à ça.
Au fait, ça fait bien 10 ans, Mordren, hein, 18 octobre 2005.
Oh.
Donc, pile poil 10 ans. En fait, si ça trouve, c'est ça. Hein.
C'est ça, c'est pour l'anniversaire.
Les mecs, pour l'anniversaire, aux États-Unis en tout cas, parce que le Japon, c'est le 25 octobre et c'est le 17 février chez nous. Mais pour les États-Unis, les mecs ont sorti un jeu hommage, peut-être.
Je sais pas ce que vous avez pensé au tout début de la vidéo. Quand on voit le personnage avancer comme ça dans la neige, avec le drapeau qui est planté, ça m'a fait fortement penser à Journée, mais dans la neige, en fait.
Bah, en fait, il y a un truc où, effectivement, il est différent de Shadow of the Colossus, c'est que Shadow of the Colossus, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un espèce de filtre sur l'image.
Il y avait un grain, ouais.
Voilà. Alors que là, effectivement, il a un rendu très propre, qui fait que dans la phase de neige, ça fait penser à Journée, quoi.
Ouais, tout à fait.
Bref, on va quand même regarder ça avec curiosité, parce que Shadow of the Colossus, en tout cas, personnellement, c'est un jeu que j'apprécie. Mais après, si c'est pour refaire des colosses qui ont exactement le même pattern que les colosses de Shadow of the Colossus, parce que pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est ça, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, il grimpe sur le dos, t'as le colosse qui s'agite et il galère. Ouais, non, ça m'intéresse pas, là, par contre.
Ah, mais aussi, ce qui était fort dans Shadow of the Colossus, c'était sa narration, à l'époque, où, finalement, il y avait très peu de dialogue, et c'était par le gameplay que tu découvrais le fin mot de l'histoire, en affrontant les boss et tout ça, il y avait vraiment une évolution par rapport au héros, et au début, ses motivations. Et au final, quand tu finissais le jeu, bah, il y avait le twist final qui arrivait comme ça, tu disais ah ouais quand même c'était bien trouvé, surtout il y avait pas des grands dialogues grandiloquents sur ce qui allait se passer tout ça. Donc moi je trouve que c'était un des points forts aussi de Shadow of the Colossus. Là on verra la narration aussi ce qu'elle peut apporter par rapport à ça.
Oui, et surtout enfin il faut pas oublier une chose, si Shadow of the Colossus et Ico sont ce qu'ils sont, c'est à cause du souci du détail de Fumito Ueda en fait. Et franchement, s'attaquer à un monument comme ça, enfin j'espère pour eux que les mecs sont conscients de ce qu'ils font, parce qu'à mon avis, les fans ils vont les attendre au tournant quoi.
Bah c'est ça, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est dangereux des fois de vouloir faire un jeu entre guillemets un peu hommage par rapport à ça quoi. C'est plus facile du coup de se mettre des gens à dos qu'autre chose.
Ouais, ça voilà. Va. Mais les fans de Shadow et de Ico, ils sont pas nombreux à travers le monde, quoi.
Ils ont arrêté les vidéos depuis.
Quand on voit les ventes qu'ils ont fait à l'époque.
Ils sont tous devant leur hôtel au Last Guardian, tu sais. En train de prier. S'il te plaît. Arrive. S'il te plaît. Arrive.
Bon, allez messieurs, on va enchaîner avec une annonce. Une annonce dont je tenais à parler parce que c'est une annonce qui m'a fortement intéressé. Donc, c'est une annonce de X-Seed. Pour ceux qui ne se rappellent pas X-Seed, c'est la boîte qui a sorti notamment un jeu qui me tient fortement à cœur sur PSP. C'est Legend of Heroes Trails in the Sky. D'ailleurs, messieurs, on attend toujours l'annonce du chapitre 2 sur PC. Je vous attends avec une matraque, merci. Ils ont annoncé le portage sur PC de 3 jeux. Il y en a un dont on se fout totalement, c'est Senran Kagura Shinobi Versus, qui est en gros un espèce de mousseau pour pervers, on va dire. Voilà, tout simplement.
Je pense que ça va peut intéresser plus de monde potentiellement que les deux que tu vas citer.
Oui, non, je parle pour des joueurs qui ne sont pas pervers, si tu veux. Voilà. Personnellement, les deux jeux qui m'ont intéressé dans cette annonce, c'est d'abord Xanadu Next.
Thank you.
déjà, la bande son, ça défonce sa rhum, quoi, mais sérieux. C'est une bande son magnifique. Enfin, je connaissais pas du tout le jeu. J'ai découvert ça en creusant un peu pour me renseigner, quoi. Et franchement, c'est une bande son qui a l'air énorme. Et rien que pour ça, j'ai envie de jouer au jeu, tu vois, pour ne serait-ce que pour voir ça. Et en plus, il a un système de jeu qui me plaît. C'est-à-dire que, en gros, vous prenez Vagrant Story au niveau de la vue, c'est-à-dire une vue isométrique du dessus, quoi, où vous pouvez faire tourner la caméra. C'est un jeu qui est en 3D. Il y a plein de gens, je sais pas pourquoi, qui l'ont décrit comme un Diablo-like, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, c'est un jeu qui est en 3D, mais pour une bonne raison. Parce que c'est un jeu où les placements, où les timings ont une énorme importance, en fait, et où, par exemple, tu as des boss où la caméra se met en vue de côté, si vous voulez. Par exemple, à un moment donné, le premier boss du jeu, c'est un boss avec plein de bras, tu sais, qui agite, etc., qui tape par terre et tout. Et en fait, c'est vraiment un jeu de réaction où tu vas devoir te placer, où tu vas devoir éviter les coups, etc. C'est pas un jeu comme Diablo, si vous voulez, ou un Ken Slash classique, où c'est la course au DPS, où t'as tes stats, tu te bases sur tes stats pour te protéger au cac, etc. Alors même si les stats ont une importance, hein, mais il y a vraiment une notion de timing et de placement qui est importante dans ce jeu. Donc déjà, rien que ça, ça m'intéresse. Et en plus, apparemment, c'est un jeu qui a un monde avec une structure de Metroidvania. Vous allez vous balader, vous allez débloquer certains passages qui vont vous faire revenir dans certaines zones, etc. Un peu à la Dark Souls, c'est-à-dire que, en gros, c'est pas vraiment un Metroidvania parce que vous n'avez pas un système où tu débloques une capacité qui va te permettre d'ouvrir une porte, etc. C'est plus comme Dark Souls où là, tu débloques, tu sais, une échelle qui va te permettre de descendre, etc., de revenir en arrière, bref. Donc voilà. Pourquoi le jeu m'intéresse? En plus, bon, c'est un jeu Falcom. Falcom, c'est aussi IS, qui est vraiment une série d'action RPG que j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu moins péchu que IS, mais le fait que ce soit très axé sur les placements, etc., ça m'intéresse quand même. Bref, ça, plus la musique, qui est vraiment sublime. Alors, attention, le jeu est extrêmement moche, hein, je tiens à insister. C'est un jeu qui date de 2003-2005, je crois. Enfin bref, c'est un jeu qui est horrible techniquement, quoi. Mais, en tout cas, je suis curieux et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voilà. Et enfin, pour terminer, là, un jeu où mes comparses parleront peut-être un peu plus, c'est le portage PC de Little King Story. Alors, attention, je précise, il s'agit du portage de la version Wii, parce qu'il y avait eu une version Vita qui refaisait les artworks, qui avait une nouvelle écriture qui était un peu pourrie, qui ressemblait un peu plus à Dating Sim, parce qu'ils avaient fait des trucs un peu aguicheurs pour attirer le chaland, n'est-ce pas? Donc, bref, c'était une version que les fans de Little King Story détestaient, en gros. Et donc là, ils vont se baser sur la version Wii. Par contre, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, ils ont montré 2-3 screenshots. C'est absolument dégueulasse, hein. Surtout quand tu vois la version sur émulateur. Alors, ils ont précisé qu'ils avaient montré ça, c'est du work in progress, en gros, c'est une alpha, quoi. Mais, enfin, je suis désolé, quand tu fais une annonce comme ça, si t'as des screenshots alpha, je veux dire, c'est pas un Kickstarter, t'as pas besoin de montrer des screenshots alpha, tu montres quand le jeu est joli, parce que là, actuellement, le jeu est moins bon que sur Dolphin, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que c'est... J'ai toujours du mal à comprendre comment un émulateur qui est développé par des gens comme vous et moi peut avoir des jeux avec des rendus plus jolis que des mecs qui ressortent, enfin des éditeurs qui ressortent un jeu sur PC, quoi. C'est quelque chose qui me dépasse.
Alors après, il faut bien voir une chose, c'est que ce qu'on voit actuellement sur les screenshots, en fait, ça ressemble peu ou prou à ce que t'as sur Dolphin, tu sais, quand t'enlèves tous les filtres donc il suffit qu'il les rajoute, mais justement, enfin, je veux dire commercialement parlant, parce que Xseed, je rappelle, c'est pas un gros éditeur, hein, c'est une petite boîte de localisation où s'ils font une connerie, ils peuvent crever, quoi, en gros, c'est vraiment une petite boîte. Quand t'as ça, que tu fais une annonce comme celle-là, enfin, tu montres pas ce genre de truc, quoi, c'est pas vendeur du tout, quoi, surtout quand le jeu est dispo gratuitement sur PC, quoi, enfin, c'est chaud.
Bah ouais, ça fait pas du tout sérieux, quoi. Enfin, c'est une fois de plus, c'est un portage. Enfin, bon, ça sera peut-être pas comme ça une fois fini, mais là, ça fait vraiment...
Mais je crois pas du tout que ce sera comme ça, honnêtement.
Bah, j'espère pas, parce que bon, sinon, c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment moche. Tu mettras une image pour montrer, mais ouais, ça fait vraiment pas sérieux. Comme tu dis, pour un studio comme ça, c'est pas une très bonne chose, quoi.
Tout à fait. Bon, dans tous les cas, le Xanadu Next, c'est sûr qu'il sera dans ma besace, hein, ça sortira sur Steam et Google Games. Bref, une version DRM free, je suis toujours preneur. Au fait, ATH, intéressé après mon pitch ou...
Ah bah, tu me l'as vendu juste en citant Dark Souls.
je m'en doutais.
T'as rien à dire d'autre, en fait.
Il y a des mots-clés comme ça, ouais.
Non, mais après, tu vois, si je le redis, ça, je vais répéter ce qu'a dit Tyran, donc je pense pas que ça va être intéressant pour apporter du grain à moudre au débat. Mais c'est sûr que je te rejoins entièrement sur ce que t'as dit. Et puis j'ai écouté un petit peu la musique, et c'est vrai que bah le thème orchestral que j'ai pu entendre, ouais, il m'a laissé vraiment une très bonne impression, et j'aimerais bien écouter un peu plus la BO pour voir ce que ça donne sur la longueur, et surtout si sur le jeu entièrement ça vaut le coup, quoi. Mais c'est vrai que la première écoute, ça vend du rêve, quoi.
Ouais, voilà. Bon, par contre, encore une fois, c'est très très moche. Hein.
Voilà. Ah oui, non, mais ça après. Mais c'est des jeux, on va dire, c'est des jeux, parce qu'il y a Xanadu, c'est la complète édition qui sort.
Ouais.
Et donc, il y a des jeux qui sont aussi, j'ai pu voir de 87, et voilà, il y a des jeux qui accusent leur temps, vraiment, et il y a des jeux qui sont sortis. Enfin, oui.
La Xanadu Next, en l'occurrence, c'était un remake qui a été sorti en 2003, je crois, du premier Xanadu. Voilà.
Ouais.
Juste pour précision. Donc c'est pour ça, il était en 3D, il apportait plein de trucs. Franchement, techniquement, ça fait penser à Vagrant Story, quoi. Quand tu le regardes, oui. En moins stylé quand même, parce qu'il faut pas déconner, mais ça fait penser à ça, quoi.
C'est vrai que après, voilà, mais bon, il faudra voir aussi. Le portage PC, au final, il sort de bonnes conditions.
Alors après, moi, je me fais pas trop de soucis. Pourquoi ? Parce qu'en général, Exceed, tous les portages qu'ils ont faits sont d'assez bonne qualité.
Ouais, ils font du bon boulot de façon générale, notamment sur beaucoup de RPG qu'ils ont portés. Ils font du bon boulot généralement.
Notamment Legend of Heroes, il y avait plein de contenus qui étaient dans la version PSP qu'ils ont inclus dans la version PC, qui n'était pas, parce que à la base Legend of Heroes c'est un jeu PC. Il y a une version PSP qui rajoutait des trucs qui n'étaient pas dans la version PC. Exceed, c'est l'une des rares boîtes que je connais qui engage une personne spécifiquement pour inclure des contenus qui n'étaient pas dans la version PC. Voilà. Et ils ont bossé pendant des mois pour inclure ces contenus, et franchement, moi, c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis et que je leur fais confiance sur Eating Story. Je pense que c'est juste une connerie de Tom, parce que c'est une boîte jusqu'à maintenant qui a fait des portages PC de qualité, contrairement à d'autres boîtes, que je ne citerai pas ici, qui ont fait de la grosse merde. Voilà. Bon, messieurs, mon cher Morren,
oui,
tu vas nous parler de gros sous, n'est-ce pas?
Tout à fait. Alors, il y a... un peu plus d'un mois, je crois que c'était sur le podcast de rentrée d'ailleurs, on vous a parlé du nouveau jeu Pokémon, qui n'est pas un jeu pour console portable, mais un jeu pour téléphone portable, un jeu pour smartphone qui s'appelle Pokémon Go, qui est développé par Niantic. C'est un développeur notamment responsable de... comment il s'appelait ce jeu ? Insight ? Non.
Ouais, c'est pas moi qu'il faut demander ça.
Moi non plus.
Le truc sur téléphone.
Je l'ai perdu.
Désolé.
Le nom aussi.
Non, enfin bref, c'était un truc avec Google, je crois, c'est ça.
C'est ça. Alors voilà. En fait, Niantic, c'est à la base, c'était un laboratoire de Google, mm-hmm, qui a ensuite pris son indépendance pour développer ses projets. Mmh. Et donc son nouveau projet, c'est Pokémon Go, donc avec de la réalité augmentée, qui va vous demander de trouver des Pokémon un petit peu dans le monde entier, n'est-ce pas? Mmh. Donc c'est voilà, sur le papier, un pitch qui peut être très intéressant. C'est Ingress, le voilà, jeu que je cherchais tout à l'heure.
D'accord.
Et on apprend cette semaine, en fait, que la compagnie donc de jeux vidéo Niantic a levé 30 millions de dollars d'investissement, et pas de n'importe quelle compagnie, puisque c'est des investissements de la part de Google, de Nintendo et de la Pokémon Company.
Voilà. Donc ça veut dire que Nintendo, ils sont sérieux.
Voilà, ouais.
Là, ils y croient. Là, ils y croient, parce qu'en plus, ils ont injecté immédiatement 20 millions de dollars cash, quoi. Et les 10 millions de dollars supplémentaires, en fait, ça va être si les compagnies d'investissement considèrent que leurs objectifs ont été atteints. Donc, ouais, il y a serious money, quoi.
Bref, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. On voulait vous parler de cette news. Pourquoi ? Parce que c'est une news quand même qui montre que, en ce qui concerne le mobile, Nintendo, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont vraiment l'intention de mettre le paquet là-dessus. Bref, voilà. Enfin, c'est pas un truc, un test comme ça, tu vois. Enfin, quand t'investis 30 millions de dollars comme ça, c'est que vraiment, t'y crois, quoi. J'ai envie de dire.
Alors, je rappelle, c'est 30 millions avec Google et la Pokémon Company.
Ah, donc, oui, voilà.
Pokémon Company et Nintendo, j'imagine que c'est l'investissement majoritaire, mais t'as aussi un investissement de Google.
Il faut dire la vraie raison pourquoi on en parlait de ça, c'est que, voilà, Mordran est un fanboy Pokémon et puis c'est tout, quoi.
Tout à fait.
Non, mais c'est un côté intéressant, c'est que, enfin, on va en parler plus tard avec la nouvelle console de Nintendo, mais on se dit que si Nintendo investit autant d'argent sur le mobile, c'est que la nouvelle console, ça risque pas d'être une portable, quoi.
Alors après, pour relativiser quand même, je connais des boîtes qui mettent des milliards sur la table pour acheter Minecraft, hein, donc voilà.
Oui, après c'est pas le même impact, c'est-à-dire que Microsoft qui rachète Minecraft et Nintendo qui met un doigt de pied dans l'eau tiède du mobile, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que là. En réalité, qu'est-ce que c'est 20 millions de dollars pour Nintendo, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un investissement d'importance. C'est-à-dire que ils font un test, mais c'est un test, ils veulent que ça réussisse.
Ils vont pas à moitié non plus, ouais.
Non, mais surtout, ils investissent dans une compagnie externe, quoi. Enfin, moi, c'est ça que je note, quoi. Ils investissent dans une compagnie qui n'est pas eux. Enfin, c'est quand même suffisamment rare chez Nintendo pour être noté, quoi.
C'est vrai.
Bref, on va maintenant parler, mon cher Ben, des saisons de passe. Encore une histoire de gros sous cette fois, sauf que là, ça nous fait pas plaisir. Hein.
Non, pas vraiment, non. Donc, ceux qui ont eu la chance de tester Battlefront le week-end dernier, je crois que c'était la bêta ouverte.
Ouais, bêta ouverte avec des retours mitigés d'ailleurs.
Ouais, bon après, voilà.
Bon, en même temps, c'est de l'équilibrage, hein, les gens. Parce que j'ai vu pas mal de gens dire, Star Wars Battlefront, pas équilibré. Bah ouais, c'est une bêta.
C'est d'autant, voilà. C'est pour une fois que voilà, un studio fait les choses bien entre guillemets en faisant une bêta ouverte sur toutes les plateformes en même temps pour vraiment tester toutes les choses et avoir des vrais retours. On va pas les critiquer s'il y a des choses qui marchent pas. Si c'est corrigé pour la sortie finale du jeu, c'est le but. Donc voilà. Pour le coup, ça c'est un débat, un autre débat.
Grosse affluence en plus, hein. Grosse affluence des joueurs, parce que 9 millions de téléchargements quand même pour une bêta.
C'est
très attendu comme jeu.
Oui, voilà, ouais,
je ne l'explique toujours pas d'ailleurs. Enfin, si, Star Wars, mais.
Bah oui.
Par contre, il y a plein de gens qui sont là. Ouais, Star Wars Battlefront, c'était énorme. Ouais, d'accord, ok. Personnellement, à l'époque, le jeu, il est totalement passé inaperçu, mais bref.
Ah, si, mais non, mais Star Wars Battlefront 1 et 2, ils étaient cool quand même, mais c'était pas des mauvais jeux.
Oui, ils étaient cool, mais c'était pas des jeux. Quand t'écoutes les fans du truc, t'as l'impression que c'est des trucs absolument cultes, énormes. Faut arrêter, quoi.
Tu retrouvais l'ambiance Star Wars, quoi. Tu pouvais prendre n'importe quel vaisseau.
C'était des chouettes adaptations de licence.
Mais j'en garde de bons souvenirs.
Enfin, je sais pas, c'est pas Jedi Knight. Hein. Enfin, je suis désolé, c'est ça. Par contre, Jedi Knight, ouais, d'accord. Là, on peut discuter, Enfin, bref.
Bref, revenons dans nos moutons. Donc, ils ont en profité pour annoncer leur season pass. Et on est habitué à des season pass déjà entre 20 et 30 euros qui font assez mal. Et là, c'est pas 20, mais c'est 50 euros pour le season pass de Battlefront. Bonjour.
Alors là, tu vois, je vois venir déjà tous les maps, les map packs exclusifs où quand tu les as pas, t'es baisé.
Ben, c'est ça. Alors, ils annoncent pour l'instant, dans ce season pass, il y aura 4 packs différents, donc 4 DLC qui vont sortir sûrement séparément, où ils annoncent voilà, que ça sera bourré de contenu et de lieux inédits. Donc, comme tu le dis, ça sent bien que les maps les plus intéressantes et les plus ce qui se rapproche le plus des films et sûrement aussi du nouveau film, ça va être inclus là-dedans.
Parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une map qui sortirait en décembre, qui serait la map de Jakku, qui est une des planètes qu'on va explorer dans Star Wars épisode 7. Et donc ça veut dire que ça va sortir dans le Season Pass et pas dans le jeu.
Bref, on sait pas, mais bon, on peut avoir peur un peu de ça, quoi.
On le soupçonne.
Fortement, on le soupçonne fortement.
Et donc en plus, si vous voulez donc vous payer le jeu à l'édition Deluxe, donc avec le Season Pass, et faut débourser 130 euros. Voilà.
Bah bien sûr, bien sûr.
Si peu. Bien.
Qu'est-ce que tu rajoutes de plus à ça, franchement?
Bah ouais, c'est...
Non mais voilà, c'est à un moment donné, on s'étonne que les gens râlent, je veux dire, c'est la carotte, quoi, sérieux. Enfin, tu payes ton jeu, déjà, c'est combien, 60 balles ou 70?
Oh bah, sur PS4 70, et tout, un tarif normal, ça va être 70, hein.
Ouais, donc 70 balles, plus 50 euros. Tout va bien. On a le tiers du prix d'une console, là, tout est normal.
Mais du coup, je comprends mieux les critiques de des gens qui ont participé à la bêta, qui disaient qu'ils trouvaient que ça manquait de contenu, quoi.
Ah oui,
je comprends.
Ouais, mais en même temps, c'est une bêta, donc c'est normal que ça manque de contenu. Ils vont pas te mettre tous les modes de jeu, toutes les maps et tout ça, quoi.
Oui, non, ça c'est normal, mais ouais, après, du coup, on se pose la question est-ce que c'était parce qu'ils voulaient pas mettre tout le contenu, ou est-ce que c'est parce que ils savaient que ça, ils vont carotter les gens à la sortie.
Parce que c'est-à-dire de toutes les vidéos que j'ai vues sur la bêta, je n'ai vu qu'une seule map.
Il y en avait deux.
C'est la map de Hoth.
Il y en avait deux.
En fait, deuxième, c'est quoi? C'est Tatooine, c'est ça?
Non, c'est un truc un peu inconnu. C'est une map. La première map, c'était une map que eux ils ont fait. Ouais. C'est au milieu de rochers, etc. Assez simple, rien de précis. Et sur la deuxième, par contre, c'était Hoth, où on s'est rappelé la bataille du film.
Ouais. D'ailleurs, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais les maps, c'est plein. Oh la vache. Hein. Alors, je sais que dans le film, c'est comme ça, mais ils auraient pu changer un peu le design quand même. Voilà quoi.
Ouais. Après, j'ai vu beaucoup de retours de gens qui disaient que le jeu était magnifique.
Ah, par contre, c'était très joli.
Ah oui, c'est très joli. Ça, par contre, il paraît que c'est très bien optimisé en plus.
Moi, j'ai joué sur PS4. Alors, j'ai pas joué très longtemps. J'ai dû jouer une heure pour le tester. J'ai pas eu de freeze, pas de ralentissement, pas de chute de FPS, fait de quoi que ce soit. Mmh. Vraiment.
Bref, vous n'aurez pas l'expérience Battlefield classique où quand le jeu sort, il faut attendre minimum 6 mois pour avoir un jeu qui est fluide avec un netcode correct.
Et puis voilà, ce que j'allais dire, les serveurs ont bien tourné parce qu'ATH l'a dit, il y a eu énormément de gens qui l'ont testé. Et moi, franchement, dès que j'ai joué, j'ai pu me connecter direct sur un serveur pour jouer. Enfin, il n'y a pas eu d'attente, il n'y a pas eu de coupure de serveur au milieu,
pas
vraiment.
De lag, ça va.
Vraiment,
ça,
tu sens le truc bien fait derrière, quand même.
Bah, tiens, d'ailleurs, vu que je pense que t'es le seul à y avoir joué un petit peu, très rapidement, parce que les retours, ils ont été plutôt mitigés. Toi, t'es plutôt comment, toi? Mitigé, ou bien?
Alors, moi, j'ai testé vraiment dans l'esprit de tester, mais je suis pas trop fan de ce type de jeu. Donc, j'ai pas plus accroché que ça. Le côté,
mais
voilà,
justement, c'est intéressant parce que je pense que très sincèrement que la plupart des gens qui sont intéressés par le jeu ne sont pas forcément non plus des fans de FPS.
Oui,
des chances, oui.
Oui, voilà. C'est ça.
Bah là, il y a le côté en plus où tu démarres, donc t'as quand même un côté progression où tu démarres level 1 et tu débloques, voilà, en débloquant, en passant des levels, tu débloques des armes, etc. Donc ça, c'est un petit côté sympa, mais qui est déjà vu et revu quand même. Mais après, voilà, j'ai rien trouver qui moi me disent parce que j'aime bien cet univers, mais que je puisse acheter ce jeu parce qu'il y a un gameplay qui me plaît ou quelque chose. C'est pas, voilà, moi ça va pas me pousser à l'acheter pour ça, quoi.
Tu veux dire, tu vas pas déclaquer 120€ pour
même pas, pour même pas 50.
Tu n'es pas un vrai fan, Ben, tu vois.
Ouais, ça doit être ça.
Mais en tout cas, je tiens à féliciter Ben parce que on lui a niqué complètement son introduction et il est resté de marbre.
Dans tous les cas, on sent bien qu'ils veulent traire le fan de Star Wars. En même temps, je veux dire, ils sont habitués, hein, ça va pas les perturber plus que ça.
Ouais, il y a qu'à regarder, non mais honnêtement, il y a qu'à regarder le marketing en ce moment de Disney, c'est abusé, quoi. Genre, je sais pas combien de dizaines et de dizaines de jouets qui sont sortis, des comics qui sont sortis, romans, il y aura bientôt la réédition des DVD, j'imagine, des Blu-ray.
Oui, c'est prévu, Mais par contre, c'est aussi pour ça je pense que le jeu, quoi qu'il arrive, sortira dans un très bon état. Parce que là, ils ont vraiment pas le droit à l'erreur, quoi. Avec Disney derrière et puis avec le film qui sort, si le jeu a des bugs ou s'il y a une mauvaise critique, ça va les plomber. Donc je pense qu'ils se permettront pas ce genre de choses.
Ouais. Bon, bah, reste à voir si les gens vont se laisser traire ou s'ils achèteront tous à la queue leu leu, des season pass. D'ailleurs, à propos d'acheter à la queue leu leu, on a une petite news qui fait plaisir, là, n'est-ce pas, mon cher Mandren, à propos des précommandes.
Ah oui, ça c'est... Ouais. Alors ça, c'est la news déprime de la semaine, quand même. Hein. Adobe Digital a dévoilé de nouveaux chiffres sur les années fiscales 2014-2015 et a révélé, par la même occasion, que... bien loin de freiner ou d'être en baisse, les précommandes ont des revenus en hausse sur l'année fiscale dernière, avec des revenus en hausse de 33% par rapport à l'année fiscale précédente. Donc c'est-à-dire que moi qui pensais que les gens avaient arrêté de précommander, pas du tout. c'est une accélération, en fait, qu'on est en train de...
À croire que personne nous écoute.
Non, mais personne nous écoute, hein.
C'est vrai.
sauf Thanos et
Herman.
Mais voilà.
Et nous-mêmes.
Ouais, non, enfin, je suis mauvaise langue. Il y a quelques personnes qui occasionnellement postent des messages. Mais bon, vous n'êtes pas plus d'une dizaine, hein, très honnêtement, je pense.
Et à savoir que le nombre pur et simple de précommandes a augmenté de 24% en 2015 par rapport à 2014. Donc voilà, c'est pas rien, hein, des augmentations pareilles. Et ça montre que finalement les problèmes day one, les problèmes de sortie en fait n'impactent pas les précommandes. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse un peu en fait.
Alors, que ça continue d'augmenter sur PC, ça me choque pas plus que ça, étant donné que maintenant on a une politique de remboursement.
Ouais.
C'est-à-dire que les mecs se disent, bon, de toute façon, j'y joue à peu près 2 heures, et si ça va pas, je me fais rembourser, quoi. Grosso merdo. Par contre, que sur console ça marche autant, là, parce que c'est des chiffres de toute plateforme, hein.
Oui.
Là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Mais bon. Parce que là, pour le coup, t'as aucune sécurité, quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est t'achètes. Alors, je me doute que c'est parce que bonus à la con et compagnie, mais bon, quel intérêt, quoi. Surtout à une époque où sur console, quand même, je veux dire, tu vas à République, le jeu, tu l'as 3 jours avant tout le monde, et, et puis voilà, ouais. Quoi. Enfin, bref.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire que... Moi, je comprends pas ce... Enfin, en fait, je comprends pas le client de base qui précommande. Quel est l'intérêt pour lui de précommander en dehors de oui, t'auras une mission de plus, quoi. Enfin, je sais pas. Alors qu'on sait très bien que ces missions là c'est jamais la folie, quoi. Enfin, je sais pas, c'est qu'on précommande une console, ok, parce que tu veux absolument l'avoir day one, ça à la rigueur, pourquoi
même
pas.
Même ça, personnellement, j'ai du mal, hein, mais bon, bref.
Non, mais enfin, moi je sais pas, à l'époque où c'était possible de précommander une console, tu n'avançais pas les frais. Là, pour le coup, quand tu précommandes, tu avances les frais.
C'est vrai.
Je sais plus pour quelle console j'ai fait ça, mais j'avais réservé une console quand j'étais ado. Et pour le coup, moi, ça me semblait logique parce que je la voulais vraiment, tu vois. Et j'avais peur que machin,
rupture de stock,
qu'il y ait plus de stock, tous ces trucs-là. Mais là, pour les jeux vidéo, on sait très bien qu'un jeu, il va jamais être en rupture de stock.
Ouais, enfin, sauf si c'est un jeu ultra niche, mais bon, ça, c'est les jeux qui sont pas en précommande, justement. Oui.
Voilà. Enfin, et c'est même encore pire sur Steam. Quel est l'intérêt pour quelqu'un de précommander un jeu sur Steam? Tu le payes 50 boules, donc tu le payes au prix fort.
Non, je suis pas d'accord. Sur Steam, t'as souvent des réductions sur les précommandes.
Ouais.
De 10%.
Ouais. Ok. Donc 10% de 50 euros, ça fait 5 balles. Si tu veux vraiment un jeu moins cher, tu l'achètes pas à moins 10% en précommande.
Ouais, tu l'achètes sur un site de clé, mais
voilà.
C'est un autre débat.
Tout ça pour dire que moi, je comprends pas le concept, en fait.
Bah, le concept, il peut s'expliquer facilement. Hein, quand quelqu'un est fan de la licence, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Star Wars. Si tu précommandes le jeu, bah, t'auras Yoda dans ton équipe ou je sais pas quoi, quelques conneries à la con. On connaît tous l'expression « ce qui est inutile est indispensable ».
Ouais.
Donc, je pense que, tu vois, le mec, il aura l'impression de pas avoir le jeu complet, même s'il lui manque une petite mission de merde à la con.
Ouais, je vois.
Et donc, je pense que ça influe fortement sur les précommandes, quoi.
C'est de la collectionniste, quoi.
Exactement,
ouais, non, mais ouais. En plus, faut voir le raisonnement derrière. C'est-à-dire que le mec, il est fan, il sait que de toute façon, il va acheter le jeu, il l'achète.
Oui, après, dans ce principe-là, si t'es sûr de prendre le jeu, pourquoi pas, mais bon.
Non, ce qui me gêne après, c'est que c'est les mêmes mecs qui vont aller gueuler
si
parce
ça marche
que
pas.
Le jeu marche pas.
Voilà.
Voilà. Je veux dire, rappelez-vous la phrase des inconnus, hein, il faut pas dire qu'ils sont cons, mais il faut pas oublier qu'ils le sont, quoi. À un moment donné, c'est ça, quoi. Je veux dire. Non, mais il faut comprendre une chose. Ils ne raisonnent que par l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez beau gueuler sur les forums, si ça continue de se vendre, ils se diront pas, bon, ok, ça s'est vendu, mais la prochaine fois, on n'essaiera pas de les carotter. Non, non. Ils vont se dire, ah, on les a pas carottés assez, on va essayer un peu plus haut la prochaine fois. C'est ça le raisonnement qu'il y a derrière. Ouais. Donc, à un moment donné, si vous cautionnez certaines pratiques, ne vous étonnez pas, derrière, que les mecs continuent. C'est tout.
J'ai quand même l'impression que les éditeurs ont besoin de recourir à de plus en plus de bonus précommandes pour légitimer la pratique, parce que c'est au final, enfin, j'ai quand même l'impression que le consommateur a besoin d'un bonus pour légitimer son achat, en fait. Je sais pas si vous avez la même impression que moi.
Oui, genre une plus-value sur le jeu, quoi.
Ouais, ouais. C'est ça. Mais de plus en plus, quoi.
En l'achetant Day One et en le réservant, t'es un peu privilégié. Sauf qu'en ouais. fin de compte, tu te fais entuber parce que le jeu, deux semaines après, il baisse de prix. Et puis après, il y a l'édition GOTY qui arrive avec tous les DLC et tout le contenu qui est sorti entre-temps. Donc tu te, la, tu te fais baiser au final.
Le contenu du Season Pass, ouais.
Voilà, c'est ça.
Alors après, honnêtement, là, je pense que depuis tout à l'heure, on prêche des convertis. Oui, c'est-à-dire que... À mon avis, le public qui est très axé sur les précommandes, tout ça, c'est un public qui achète son Call of Duty tous les ans, qui ou alors c'est le papa, tu sais, qui précommande voilà, le jeu pour Noël ou voilà quoi. Moi, je pense qu'aussi, c'est quand même beaucoup ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des fans de jeux vidéo hardcore qui ne précommandent pas leur jeu, mais je suis pas sûr que ce soit la majorité, en tout cas.
Mais il y a aussi... On en parlait il y a pas très longtemps là déjà l'affaire Deus Ex Mankind Divided où les précommandes avaient quand même fait râler pas mal les gens sur internet. Après Square Enix était revenu sur sa décision et aussi ceux qui sont forts en ce moment en termes de précommandes à la con et de bonus de merde, c'est Ubisoft où à mon avis ça doit gonfler artificiellement les précommandes.
Je pense que c'est les meilleurs hein, là-dessus. Mmh.
Si tu précommandes, par exemple, chez Micromania, t'as le droit à la skin rouge de Ezio. Si tu précommandes chez Carrefour, t'auras le droit à la skin verte. Donc, ce qu'ils font, c'est que les gens, ils commandent partout, comme ça, ils ont le droit à leur bonus de précommande à la con. Et après, au final, ils l'achètent que dans une seule enseigne. Mais ça augmente le nombre de précommandes, en fait.
Alors après, certains de nos éditeurs ne manqueront pas de, je suis sûr, de souligner un paradoxe, c'est-à-dire qu'on critique les précommandes, mais on parle de Kickstarter, n'est-ce pas? Je tiens à souligner quand même que, pour moi, à la base, Kickstarter, c'est une démarche pour soutenir des studios indépendants, et que s'il y a une raison pour laquelle on parle de moins en moins de Kickstarter sur ce podcast, je sais pas si vous avez remarqué, c'est justement parce qu'on se rend compte de plus en plus que Kickstarter est noyauté par les éditeurs et qu'on n'a pas envie de soutenir cette démarche-là. Voilà. C'était pour répondre, tu sais, aux futurs commentaires éventuellement par rapport à notre politique vis-à-vis de Kickstarter, etc. Voilà, voilà. Bon, messieurs, on va encore parler de gros sous. Et là, c'est des sous, enfin, c'est impressionnant. C'est Star Citizen qui a passé le million de contributeurs, ce qui, je crois, le fait rentrer dans le livre des records. Enfin, ça fait longtemps qu'il y est, hein, mais
ouais, une page
là,
de plus.
Je veux dire, on va dire qu'il en rajoute une petite louche, quoi. Parce que quand même, on parle d'un jeu qui est en accès anticipé, qui à la base était en Kickstarter, et qu'il a donc à 1 million de Gugus qui ont précommander le jeu, grosso merdo, quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, qui ont, en tout cas, filé des sous à Robert Space Industries, parce que j'ai un peu de mal à appeler ça précommande, parce qu'à mon avis, si le jeu se plante, je suis pas sûr que les gens seront remboursés. Mais bref. je suis même sûr qu'ils seront pas du tout remboursés. Donc, en tout cas, nouveau record de Star Citizen, mais à un moment donné, j'ai envie de dire les gens, arrêtez de financer ce truc. Stop! Putain, ils ont pas besoin de votre argent. Arrêtez! Arrêtez ce truc, c'est de la folie, c'est,
This is madness!
Bon, après, je sais pourquoi les gens financent, ça a été très bien identifié par Polygon, je crois, notamment. Ils appellent ça le ship porn. C'est-à-dire que, en gros, les mecs, ils vendent des vaisseaux spatiaux comme ils vendent des bagnoles.
C'est vrai.
Et, les gens sont à fond dedans, quoi. Bon, en même temps, on les comprend parce que à chaque fois que je vois une vidéo de ce truc, je suis le cul par terre. Notamment récemment, il y a eu la CitizenCon où ils ont montré des trucs, mais on voit qu'il y a du pognon en tout cas. Hein. Mais par contre, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, stop, quoi. Stop. Arrêtez. C'est bon. Il faut parce que je pense que ça n'est pas sain pour le projet de continuer à leur donner l'argent.
Bah,
après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je pense que c'est malsain.
Il y a eu un développeur du studio qui a pas mal craché, sur eux en disant que l'argent, en gros, ça servait à acheter des voitures, mais des vraies voitures dans le monde réel, quoi, pour se faire plaisir. Et en gros, tout l'argent était quasiment parti dans les mecs qui se faisaient plaisir. Et que le jeu, il restait plus grand chose pour le jeu, quoi.
Ouais, alors après, ça, déjà, je me méfie des anciens employés pas contents, déjà, à la base, si vous voulez. En plus, il faut savoir un truc, c'est que une grande partie de la campagne qu'il y a actuellement contre Star Citizen, elle vient d'un mec qui s'appelle Derek Smart. Alors, le mec, à la base, je veux dire, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité, si vous voulez, parce que c'est un peu un escroc, ce mec, à la base, hein.
Je crois que c'est lui, c'était un escroc, en plus, hein.
Ah non, mais c'est pas un ancien développeur, alors. C'est totalement externe au projet. C'est un, mais par contre, je crois qu'il a relié, en fait, sur son blog, un message d'un ancien développeur. Il me semble que c'est ça, mais à vérifier. Voilà. Enfin, c'est pas crédible deux secondes pour moi, parce que le mec a une dent profonde contre Chris Roberts. En plus, c'est un escroc de base. Donc voilà, ça c'est dit. En tout cas, c'est l'hôpital qui soude la charité, il faut pas le prendre au sérieux. Mais par contre, ce dont je suis certain, c'est que ce projet a trop d'argent, que à force de donner des sous comme ça, on peut inciter à des comportements déviants où les mecs vont croire que c'est la fête et voilà. Alors, j'ai été un peu rassuré récemment par la CitizenCon, parce que ils ont montré quand même quelques vidéos de gameplay, notamment une que j'avais fait suivre sur le chat de la rédaction, je sais pas si vous l'avez regardé, mais qui est absolument enfin, ça tombait par terre, quoi. Mais par contre, arrêtez de donner des sous, quoi, stop.
Bah, c'est surtout qu'au bout d'un moment, en fait, ce nouvel argent, il va financer quoi? Plus rien in-game, en fait. Il va financer le studio, éventuellement. Donc, sur les coûts humains et tout. Potentiellement un futur jeu, mais au bout d'un moment, enfin, les game designers, il faut qu'ils arrêtent d'implémenter des nouvelles choses parce qu'ils ont plus de thunes, en fait. Sinon, le jeu, il sortira jamais.
Voilà, c'est ça. Et on va se retrouver dans une situation où les mecs... bon, ils ont arrêté de promettre de nouvelles features depuis longtemps, mais heureusement, d'ailleurs.
Bah, oui, déjà, il y en a un bon paquet qui doit faire, alors... qui se concentre déjà sur ça, quoi.
Oui, déjà, mais en plus... Enfin, quand t'as trop d'argent, en fait, le problème, c'est que tu polis sur des conneries, quoi. Et du coup, enfin, tu crois que t'as tellement d'argent... que tu fais plus attention, enfin c'est l'argent n'est plus un problème, quoi. Et moi je pense que aussi le fait de donner un coup d'arrêt à ça, ça permet de dire à un moment donné, ok, on arrête les conneries, on se focalise sur l'essentiel, et à un moment on le sort, le jeu. Parce que les jeux comme ça, tu sais, qui sont tout le temps polish et repolish, pas ça donne du Duke Nukem Forever. Voilà. Tout simplement.
Non, mais là, après, Duke Nukem Forever, c'est vraiment un cas particulier, quoi. Le jeu.
Ouais, mais attends. Duke Nukem Forever, le gros problème du jeu, c'est que les mecs, à chaque fois, ils polichaient leur truc à l'extrême, qu'à un moment donné, leur moteur était dépassé, et qu'ils recommençaient tout à zéro.
Ouais, ouais.
Et moi, si tu veux, ce que j'ai peur avec ce système où tu donnes tout le temps de l'argent, etc., c'est que les mecs sentent que c'est la fête, tu vois, qu'ils s'éternisent sur un truc et qu'à la fin, ils s'en sortent plus, quoi, parce qu'ils s'attardent sur des micro-détails, des trucs et des machins. Enfin, à un moment donné, il faut le sortir, le jeu, quoi.
Tout à fait d'accord avec toi.
Bon, rien à rajouter ?
Non.
Ben, peux-tu nous parler de la nouvelle annonce de Valve qui, ma foi, a l'air fort intéressante ?
Oui, donc on va reparler du Steam Link, donc ce petit objet, qui permet de jouer donc à sa bibliothèque Steam sur un autre écran. On va parler de préco justement. Donc si on préco le Steam Link, on nous offre notamment deux jeux qui sont Rocket League et Portal 2. Donc comme on disait tout à l'heure, Portal 2, je pense que tout le monde l'a eu un jour offert sur Steam. Il s'est retrouvé un peu partout gratuitement, voilà. Mais Rocket League, bon, il y a beaucoup de monde qui l'a acheté, mais c'est quand même un jeu bien sympa. Donc la préco est à 55€. Et donc avec ce Steam Link, on va pouvoir donc jouer sur son autre écran, notamment dans son salon, sur une grande télé, puisqu'en plus il va nous permettre d'avoir une résolution à 1080p.
Ouais, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, parce que fondamentalement la préco, vous avez compris, on n'est pas forcément fan.
Voilà.
Mais en tout cas 60 FPS.
Ouais, dans ce qu'ils promettent au niveau de ce qui est possible avec le truc, c'est vachement intéressant.
Voilà. Alors à noter quand même qu'ils précisent qu'il vaut mieux avoir une connexion internet et pas utiliser le Wi-Fi.
Parce que
en même temps, hein.
Voilà, non mais bien sûr, mais bon, il y aura toujours des gens qui vont se dire, ah moi je suis en wifi, ça marche pas bien, j'ai pas autant d'images par seconde, etc. Donc voilà, ils le précisent, donc c'est pas mal. Après voilà, des choses assez normales, il y aura un port HDMI, le support du Bluetooth 4, etc. Mais c'est voilà, notamment pour le coup de la résolution, qui est vraiment sympa, et en plus on pourra donc acheter aussi les manettes Steam qui seront forcément compatibles avec, et qui permettront donc de jouer à toute sa bibliothèque Steam sur sa télé.
Voilà. Et moi, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que pour le mec qui a sa baraque et qui veut jouer dans son salon peinard, alors tout le monde n'a pas forcément de prise Ethernet, on est d'accord. Mais il y a une alternative qui est très bien à ça. Tu branches une prise CPL derrière ton PC, t'en branches une dans ton salon. Pour ceux qui connaissent pas le CPL, en fait, c'est Internet par câble électrique, en fait. tout simplement. Mmh. Bon, après, il faut avoir une installation électrique un peu récente, hein, parce que sinon, ça fait de la merde. Moi, je suis en CPL, notamment. Donc, alors, ça marche bien. Pourtant, la maison est assez vieille. Mais en tout cas, vous faites ça. Je veux dire, derrière, vous êtes les rois du pétrole, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, t'as un tout petit boîtier qui te permet de jouer tranquillou à ton jeu. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve ça mille fois plus intéressant que les Steambox.
Oui.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les petites connexions Internet vont pouvoir profiter du truc, en fait ?
Ah, mais on s'en fout, parce que c'est du local.
C'est du local, parce que par exemple, moi, je veux prendre un exemple. J'ai testé ne serait-ce que le stream local avec Steam, tu sais, il permet donc de lancer son jeu sur son PC, et aujourd'hui, j'ai joué sur un autre PC, j'ai joué sur un PC portable dans mon salon, j'ai une connexion de merde en dehors, et par contre, sur le réseau local en Ethernet, ça marchait nickel.
D'accord. Ok.
Donc en fait, c'est exactement le même principe, sauf que ça sera pas pour jouer sur un autre PC qu'à Steam, mais sur sa télé, ou voilà.
Allez, je précise que c'est le métier de Ben, hein, au passage. Tout un peu le réseau. Donc s'il vous dit que c'est bien, c'est que c'est bien.
et du coup, la télé, faut que tu la branches à quelque chose.
En fait, dis-toi que le Steam Link, c'est comme un mini PC où il y a que Steam dessus.
D'accord.
Voilà, donc tu le branches.
Ah, donc c'est le Steam Link que tu branches à la télé. En fait.
Voilà, exactement. Qui lui est connecté au réseau, où il récupère les infos de Steam et que lui tu branches sur n'importe quel écran.
D'accord. Voilà. Ok.
Et actuellement, nous, ce qu'on fait déjà avec nos PC portables, par exemple, c'est que on branche nos PC portables en Ethernet pour jouer à des jeux sur nos PC, par exemple.
Ouais.
Bon, moi, par exemple, j'ai pas forcément de câble Ethernet sur mon laptop, si vous voulez, j'y joue en Wi-Fi sur des jeux en tour par tour. Et même là, ça marche assez bien. Hein.
Oui, voilà. Après, le problème du Wi-Fi, c'est pour les jeux où il faut être ultra réactif, ce genre de choses. Tu risques d'avoir un petit décalage. Mais c'est vrai que pour certains types de jeux, ça poserait même pas de problème, quoi.
Voilà, Edge of Wonders 3, j'y ai pas mal joué comme ça. Ça marche très bien. Nickel.
Ça montre vraiment le développement accru de Steam pour sa fonctionnalité big picture, quoi. Le côté tu accèdes à Steam avec une manette et tu fais tout depuis un autre écran que celui de ton PC.
Bah, en tout cas, ça montre que Valve a compris que s'il voulait continuer à étendre son business, il fallait qu'il s'attaque aux consoles, quoi. Alors, je pense pas que ça convertira les fans de la console les plus hardcore.
Ouais.
Mais je pense que le public, tu sais, qui est un peu entre deux eaux, qui hésite, parce que qui se dit, putain, mais moi, j'ai envie de jouer sur ma télé, tout simplement. Là, ce genre de truc, ça peut être un vrai argument, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, tu t'achètes ton PC, bon, tu l'installes, je sais pas, dans ta chambre ou je sais pas où. Et de l'autre, tu mets ton Steam Link, et puis voilà, quoi, ça marche nickel.
Ouais. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le prix du hardware est pas très prohibitif.
C'est très raisonnable, ouais.
55 euros. En même temps, je veux dire, la techno qu'il doit avoir dedans, c'est pas non plus,
Non, c'est pas un truc très compliqué. C'est l'équivalent un peu comme fait le Chromecast, si vous connaissez ce genre de choses. Enfin, c'est du streaming local. Donc, la techno est pas super compliquée. Mais par contre, pour les gens qui ont des maisons, qui ont le PC à l'étage et qui veulent jouer dans le salon, ce genre de choses. C'est un très bon compromis, quoi. Alors, en plus, on en parle pas parce que pour l'instant, on sait pas si ça pourrait être un jour adaptable, mais ils vont sortir un casque de réalité virtuelle aussi. Donc voilà, pourquoi pas aussi l'adapter à ça et pouvoir jouer donc dans son salon avec son casque, qui est souvent une plus grande pièce que la pièce où va être le PC si c'est un petit bureau ou quelque chose comme ça. C'est aussi ça peut être aussi un atout.
Bref, un argument de plus pour le PC et nous, ma foi, on est tous
d'ailleurs la vidéo de Valve de présentation est d'ailleurs excellente, j'ai envie de dire.
Elle est très très cool.
Ouais.
C'est une vidéo faite avec ils ont un outil qu'ils avaient utilisé pour faire des vidéos sur Team Fortress, en fait. D'ailleurs, justement, c'est Team Fortress c'est un truc, il y a des mecs qui font des trucs de folie avec ça, c'est énorme, quoi. Enfin,
le truc est bien présenté parce que dans la vidéo il y a de l'humour. Ça te montre bien le concept et tout, donc voilà, ça c'est vraiment, je pense qu'il y a il devrait avoir des éditeurs de jeux qui devraient prendre un peu, c'est ça. Ce que je trouve que c'est vraiment bien fait.
Une précision par rapport aux features du truc. Par exemple, imaginons, vous avez des jeux sur Google Games. Il faut savoir que vous pouvez tout à fait les jouer et les ajouter à votre librairie Steam. Et les streamer à partir de votre PC aussi. Par exemple, moi, Age of Wonders 3, c'est pas la version Steam que j'ai, hein, c'est la version Google Games.
D'accord.
Et j'y joue en streaming.
Est-ce qu'on peut ajouter des jeux piratés dans la bibliothèque Steam?
Ah, mais tu peux rajouter n'importe
voilà.
quoi.
Voilà, non, mais c'est con, mais c'est vrai que les gens qui des fois veulent pas prendre une console de salon parce qu'il y a pas moyen de pirater, on sait un peu comment c'est aussi, hein, les jeux sont chers, donc il y a des gens, beaucoup de gens qui piratent, mais ça peut favoriser ça aussi, parce que tu te dis ah ben je m'achète juste un Steam Link, je télécharge mes jeux sur mon PC, je les rajoute juste dans ma bibliothèque comme un jeu externe et je les balance sur ma télé, quoi, genre les FIFA, tous ces jeux là qui sont plus des jeux de console salon, ça peut être aussi un argument.
Vous l'avez entendu ici en premier. Ben est un pirate.
You are the pirate.
Je pense à toutes les solutions possibles avec cet objet, c'est pas pareil.
Alors, mail à Adopi. Allons-y.
Bon, après, évidemment, nous n'incitons pas au piratage, hein. C'est surtout que, enfin, le côté faux cul, on parle pas du piratage, machin, migule, c'est bon, quoi. C'est
ouais.
Bon, bah, écoutez, ma foi, c'est pas mal. On attend avec impatience. Je sens que TNOS va râler encore, mais je sais pas pourquoi. On a dit du bien de Valve, je pense qu'il arrive, il va nous découper. Là. Ouais,
moi, j'attends surtout des retours utilisateurs, quoi.
Ouais, voilà. Et par contre, notez bien la clé de voûte de tout ça, le Steam Controller. Hein.
Oui, ouais, aussi. Ouais.
Après, tu peux être en mode big picture et naviguer avec ta manette Xbox One, hein, mais je pense que le Steam Controller apportera un plus non négligeable. Enfin, c'est vraiment... la feature, enfin le truc supplémentaire qui rendra l'expérience agréable.
Alors c'est possible, mais il précise quand même que toutes les manettes filaires Xbox One, Xbox 360 ou Xbox 360 sans fil pour Windows sont compatibles ainsi que les Logitech. Enfin bref. Ouais.
Oui non mais je parle aussi pour certains jeux qui sont conçus pour être souris. Si ça fonctionne bien.
Ça c'est sûr.
Ça reste à voir encore.
Ben, justement juste j'apporte un truc là-dessus. Ça sera dispo le 10 novembre donc on devra avoir des retours assez rapidement. Et ouais. Ils vendent voilà un pack à 110€ avec une manette plus le Steam Link, une manette Steam.
D'accord.
Voilà. Bon. Nous allons maintenant parler de l'ANX. J'ai pas attribué la news, alors on va. Tiens, ce sera à toi.
Bah, si c'était moi.
Ah non, c'est Attache. Ah oui, non, c'est Attache, oui. Excuse-moi. Excusez-moi.
J'y ai échappé sur le fil.
Mais bon, okay, si tu veux, Mandrane, je peux te laisser ta news.
Non, mais c'est parce que, en fait, j'avais pas noté que je l'avais attribué à TH. Bref, on s'en fout, ATH. Donc, l'ANX, qui. Apparemment, on aurait sous le capot, c'est ça ?
Oui, ça serait une console donc qui serait composée des éléments les plus performants du marché pour sa sortie, donc avec toutes les nouvelles puces, etc. Pour vraiment revenir sur un bond technologique conséquent par rapport à la Wii U et surtout rattraper son retard par rapport à la PS4 et à la Xbox One.
Ouais, bon, sachant qu'on sait qu'à chaque fois que les constructeurs consoles annoncent les composants de dernier cri, en fait, c'est le milieu de gamme, hein, je précise. Mais voilà.
Et aussi, ce qui est important aussi dans cette news, c'est que la ANX serait apparemment aussi une console hybride, à la fois donc portable et à la fois aussi console de salon. On ne sait pas dans quelle mesure, parce que la Wii U, on peut dire que c'est une console hybride avec son gamepad, sauf qu'il faut vraiment y être. Oui. On est obligé d'être à proximité de la Wii U. Là, on ne sait pas encore dans quelle mesure ça sera fait. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est que les premiers kits de développement ont été distribués, donc on pourrait avoir apparemment des retours des développeurs sur la puissance théorique de la ANX.
J'ai envie de dire, moi j'en ai déjà eu des retours de développeurs, donc le côté puissance, ça fait partie des choses que j'ai entendues. Mm-hmm. Par contre, le côté hybride, ça n'avait pas du tout été évoqué, donc ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça concorde avec ce que j'ai entendu comme rumeur côté industrie, quoi, on va dire.
Bah, de toute façon, aujourd'hui, avec la politique que prend Nintendo et les jeux mobiles, je les vois pas sortir une console portable. Donc, de plus ça va.
À 100% portable, en tout cas.
Oui, voilà. Plus ça va et plus on se dit que, en tout cas, la plateforme de base, ça sera une console de salon. Peut-être après, voilà, un gamepad portable, on sait pas exactement quoi. Mais je vois pas comment ça serait pas une console de salon, d'autant plus avec le flop de la Wii U, quoi.
Et on a aussi une date de sortie aussi, apparemment. Ce serait la fin d'année 2016. Donc, c'est assez proche.
Rappelons quand même que tout n'est pas, tout n'a pas été confirmé par Nintendo.
Oui, c'est que des rumeurs aujourd'hui, ouais.
Bon, la rumeur émane quand même du Wall Street Journal, donc c'est pas rien, quoi.
C'est pas comme si c'était une rumeur qui venait de IGN ou bien d'un forum obscur sur Internet, quoi.
clairement.
Bref, est-ce que ça vous intéresserait une console hybride? Parce que fondamentalement, déjà technologiquement, honnêtement, je pense que c'est possible, parce que faut dire ce qui est proposé aujourd'hui, un équivalent à la PS4 et la Xbox One en modèle réduit, c'est possible. Bon, par contre, à quel prix? Et surtout, quelle autonomie? Alors, à moins qu'ils aient définitivement acté que les consoles portables, ça joue à la maison, ce qui est peut-être pas forcément faux non plus, parce que l'autonomie, c'est chaud quand même, quoi.
Ouais, en tout cas, techniquement, moi, ça me paraît pas aberrant, puisque il y a beaucoup de... Enfin, c'est-à-dire que la PS4 le fait, avec la PS Vita et la PS4.
Ouais, non, enfin, ça, la PS... Par contre, ça n'a rien à voir, parce que c'est du streaming.
Non, mais c'est-à-dire que... Ce n'est pas impossible de refaire la même chose, en tout cas du côté Nintendo. Après, je me rappelle aussi, alors je me rappelle plus si ça avait été, c'est-à-dire en termes de retour utilisateur, si ça avait été adoubé ou pas, mais que tu pouvais continuer à jouer à ta partie sur PS Vita en Wi-Fi ou en 3G.
Oui, alors ça, par contre, je sais pas du tout. Mais bref. De toute façon, dans tous les cas, c'est du streaming.
Oui, c'est faisable, mais après, voilà, c'est le problème le Wi-Fi, ça marche tant que t'es chez toi. Après, la 3G, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les connexions sont tellement mauvaises, dès que tu vas t'éloigner, le streaming va planter, quoi.
Oui, non, mais de toute façon, là, on parle, enfin, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, de la news, peut-être que je me plante, mais pour moi, c'est une console, tu la poses sur ta télé, à la fin, t'as fini de jouer sur ta télé, tu la prends et tu vas jouer ailleurs. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'interprète.
Moi, c'est ce que j'avais compris aussi. Après, pourquoi pas. Faut voir aussi à quel type de jeu tu vas pouvoir jouer. Parce que c'est-à-dire qu'il faut que le gameplay puisse se transférer à la fois sur le salon et sur portable. Ce qui est, enfin, si tu regardes un petit peu les jeux qui sont sortis et qui sont un petit peu cross-platform. Et qui peuvent se jouer et sur PS4 et sur PS Vita, c'est pas toujours l'expérience qu'on a habituellement sur console de salon. Donc il faut aussi que la partie portable soit adaptée au soft, en fait. Donc ça va demander, à mon avis, pas mal de recherches, pas mal de développement aussi sur le hardware. Et la grosse question, c'est si t'as effectivement une console qui est à la fois portable et salon, ça implique aussi un hardware qui coûte de l'argent, puisque c'est un hardware qui est dédoublé.
Oui, parce que pas forcément dédoublé, parce que tu peux faire très bien une console d'un seul bloc. Que tu transportes avec toi. C'est ça, c'est pour ça que depuis le début, je comprends pas, en fait, pourquoi tu parles de 3G, etc. Parce que pour moi, la manière dont je vois la chose, c'est t'as une console d'un bloc, qui est en format réduit, quoi.
Que tu peux relier à ta télé, mais que, à l'origine, c'est très, entre guillemets, plus une portable, mais que tu peux relier à ta télé et jouer comme une console de salon, quoi.
Parce que, fondamentalement, je le dis, la PS4 et la Xbox One, déjà, à leur sortie, c'était du hardware milieu de gamme. Là, je pense qu'avec la miniaturisation qu'il y a, si vous voulez, il y a moyen de faire quelque chose d'équivalent, surtout en 2016, en fait, c'est ça le truc. Moi, c'est toujours la même chose. Est-ce que ce sera une console, entre guillemets, portable de salon, ou est-ce que ce sera une vraie console portable où t'auras en gros une expérience salon et une expérience portable. Je sais pas si je suis clair. Un peu comme ce que faisait, vous voyez, la Dreamcast avec le VMU, c'est-à-dire que en gros t'avais la partie salon où t'avais le jeu classique, et puis quand tu prenais ton jeu en mode portable, là t'avais un autre jeu, en fait.
Pour faire simple, est-ce que on va prendre la PS4 et la PS Vita comme une seule et même console?
Voilà, on va les faire fusionner. Voilà, Sangoku Vegeta.
Et toi, tu voudrais savoir, ça serait, est-ce que les jeux sont plus pensés pour la PS4 à la base, ou bien plus pour la Vita, et après portés sur la PS4 en termes de jeux, quoi?
Ou alors, est-ce qu'on propose deux expériences différentes en un jeu? Et ce qui est très compliqué.
Ah oui, bah là, après, ça serait, là, franchement, ça peut être intéressant, mais
je pense que c'est le fin du fin, pour le coup.
Ouais, ça, mais après,
ça plante à fin.
Ça, je pense que s'il y en a un qui ferait ça, ça sera que Nintendo au début pour exploiter sa console. Oui, mais les éditeurs, ils sont tellement flemmards qu'ils vont faire un jeu et vont te porter à l'arrache sur les deux supports, enfin sur les deux.
Même oui, non, mais ça, on s'en fout à la limite. C'est pas déjà, on aura les jeux. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette news, c'est que si Nintendo se remet, entre guillemets, à jour en termes de puissance, ça permettra tout de même d'avoir les portages, parce que là, jusqu'à maintenant, moi je pense que le gros handicap des consoles Nintendo, en tout cas qui les empêche de se vendre à très très grosse échelle, enfin, c'est le fait qu'on n'a pas les jeux des éditeurs tiers, quoi, tout simplement. Là, les éditeurs tiers, alors ok, ils feront des portages comme ils font des portages Xbox One, PS4, PC, mais c'est pas grave, parce que à côté de ça, on aura l'expérience Nintendo qui sera, elle, nouvelle et intéressante, quoi. Mais on aura les deux, quoi.
Du coup, ça sera la machine, on va dire, si les éditeurs tiers sortent tous leurs jeux sur leur console et aussi sur NX, donc il y aura Nintendo qui sera là et avec ses licences, donc ça sera la console potentiellement qui aura le plus d'exclusivité, déjà.
Voilà.
Bien sûr.
Et de plus, tu vois, par exemple, si t'es père de famille, bon, t'as des enfants, tu voudras leur acheter, tu vas pas leur acheter une PS4 ou une Xbox One parce qu'il y a les jeux de guerre, et, enfin, les jeux un peu, 18 ans, tout ça, tu voudras pas trop qu'ils y jouent, donc tu vas leur acheter une console Nintendo avec Mario, tout ça. Et toi, t'auras droit à ton FIFA, à ton Call of, pour jouer, tu vois, pour jouer tranquillement le week-end. Et je pense que c'est un vrai tort que la NX, enfin la Wii U, c'est pour moi c'est son plus gros défaut en fait, c'est que si y a eu leur éditeur tiers qui aurait été là, qui aurait soutenu la console, et, mais du fait qu'elle soit pas aussi puissante qu'une Xbox One et une PS4, ça lui enlève déjà une grosse part du marché. Parce que les FIFA,
les gens voulaient, enfin les éditeurs veulent pas se prendre la tête, faire un portage compliqué
en France,
pour vendre quoi.
Quand tu vois qu'en France que FIFA c'est le produit culturel le plus vendu. Tu te dis ok, il y a c'est un jeu chaque million, chaque année il fait des millions de ventes. Si on l'a pas sur notre console, ça peut poser un problème, tu vois. Et aussi moi il y a une autre question qui vient de m'arriver à l'esprit là pendant que je parlais, et c'est le fait que si la composante console portable arrive, j'ai envie de savoir si Nintendo allait nous faire les enfoirés en nous sortant le coût du chargeur vendu séparément comme il avait fait au début pour la 3DS.
Ouais, et est-ce qu'elle sera zonée aussi?
Oui. Ils veulent pas dézoner leur console, donc
Bah à un moment ils discutaient de les dézoner, donc je sais pas, c'est l'occasion de le faire.
Ouais, mais c'est toujours
je sais, je suis optimiste hein, mais
c'est toujours pas arrivé, j'ai envie de dire, donc c'est pour ça que je suis pessimiste moi.
Bon, dans tous les cas, moi je sais pas pour vous, mais c'est une perspective que je trouve excitante. Alors bien sûr, à confirmer si c'est vrai. Mais voir Nintendo revenir dans la course de la puissance, alors oui, c'est pas ultra original, mais en même temps là, j'ai envie de dire, à part le fait que ce soit hybride, on sait pas grand chose, parce que le fait que ce soit hybride, ça peut apporter une originalité, je veux dire, s'il y a vraiment deux modèles qui sont intégrés, que voilà, on a deux expériences en portable et en jeu sur salon, ça peut être intéressant. Alors
ah oui,
après,
clairement.
Si c'est une console portable de salon, c'est tout de suite moins intéressant, même si ça a un intérêt, mais par contre, que Nintendo revienne dans la course à la puissance, moi, je suis pas contre. Parce
non,
que, pour le coup, ce serait la console de choix. C'est-à-dire que, en gros, tu as les exclusivités Nintendo et tu as tous les autres jeux. Et finalement, est-ce que c'est pas ça
Bah, c'est le meilleur des deux mondes.
Que les gamers, en tout cas, attendent. Alors après, on est d'accord que ils reproduiront peut-être sans doute pas le succès de la Wii avec ça, mais en tout cas, ils auront, je pense, un succès quand même avec ce truc, quoi.
Par contre, oui. Moi, j'ai du mal à croire. Alors, si ça s'avère que c'est ça, donc une console portable, enfin une portable puissante, on va dire, qui permet de faire console de salon, je vois pas comment ils peuvent le sortir fin 2016. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en termes d'hardware, comment tu fais? Tu fais une console de quelle taille? Du coup, si tu peux y jouer, t'essaies de faire une console petite de la taille d'une Vita ou d'une 3DS, mais pour y mettre toute la puissance là-dedans, aujourd'hui, voilà, ça reste encore super compliqué.
La taille d'une 3DS ou d'une Vita, ça j'y crois pas.
Ben voilà,
je pense.
S'ils font la taille,
plutôt un truc la taille du Game.
Voilà, mais du coup, c'est comme tu disais, c'est une portable de salon où tu vas rester chez toi pour jouer, où tu vas pas l'emprunter si, enfin, tu vas pas la prendre si dans le métro, parce
ou alors
que
tu la prends pour quand tu voyages, quoi.
Oui, voilà, ou si voilà, si tu peux être installé dans le train, ce genre de choses, mais c'est pas une vraie portable, on va dire. Mais bon,
après,
on verra.
On
aujourd'hui, voilà, c'est une rumeur. On n'en sait pas vraiment.
Plus. À la GameCube à l'époque où il y avait le câble, par exemple, avec la Game Boy Advance. Qui était raccordé à la console, s'ils pourraient faire un truc dans ce type-là, genre, en fait, bah, comme un peu le gamepad et la Wii U aussi, la console portable, c'est ta manette, et quand t'as fini de jouer sur ta télé, bah, tu peux prendre le gamepad, entre guillemets, et tu te barres avec, et tu peux continuer à jouer dans le bus et tout ça. Après, ça fonctionnera à batterie, ou je sais pas quoi.
Ouais, ou alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme le VMU de la Dreamcast, c'est-à-dire que tu as deux expériences.
Voilà, ça te met un petit jeu, peu, quand t'es sur ton portable, et t'as le jeu complet, on va dire, quand t'es sur ta console de salon, quoi.
Voilà.
Mais par contre, moi, ça me dérangerait pas que ça soit une console, on va dire, portable, puis de salon, s'ils nous sortent les mêmes jeux qu'ils ont sortis sur la Nintendo 3DS, parce que sur la Nintendo 3DS, je rappelle, le catalogue est quand même pas mal fourni, et...
Ouais. Ah oui, c'est, pour moi, c'est une console, enfin, qui est, elle serait pas zonée, je l'aurais déjà acheté plus longtemps.
Ouais, il y a vraiment des bah, franchement, si ces jeux-là sortaient en HD, sur console de salon, adapté pour console de salon, en même temps, là, Nintendo, il ferait vraiment mal. En plus de ça, s'il y aurait les éditeurs tiers derrière, comme on l'a pu le dire auparavant, là, ça serait vraiment une console, on va dire, quasiment ultime, quoi.
Ouais, la nouvelle Super Nintendo. Ouais. Alors, par contre, du coup, ça implique plein de choses, parce que on sait que Nintendo a du mal à soutenir la cadence sur Wii.
Ouais.
Bon, après, il faut leur reconnaître qu'ils ont dû gérer le passage à HD, ça a pas dû être évident, hein, parce que le passage à l'HD que les éditeurs ont géré avec la 360 et la PS3, eux, ils l'ont subi maintenant, quoi, en fait. Mm-hmm. Donc, forcément, et je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation, etc., donc peut-être qu'ils seront plus performants, mais du coup, si t'as toutes ces problématiques, tu sais, de gérer plusieurs supports, enfin, voilà, c'est quand même, en termes de développement, je pense que ça va pas être simple, quand même, hein. Donc, est-ce qu'ils ont mis les moyens, là est toute la question.
C'est vrai que c'est une bonne question parce que on sait que Nintendo déjà ils sont pas énormément par rapport à d'autres grands groupes. Finalement chez Nintendo quand tu regardes il y a pas tant d'employés que ça quoi.
Ouais non c'est une petite boîte hein, Nintendo. Hein. Ils ont énormément de pognon mais c'est une toute petite boîte. C'est un artisan. Quand on dit que c'est un artisan c'est pas tout à fait faux. Hein. C'est-à-dire que ils ont pas fait des investissements de malade et que ça reste une petite boîte quoi comparé à ce que peuvent être les grands éditeurs ou Ubisoft notamment qui a une masse salariale dingue, c'est incomparable quoi.
Bah ouais, quand tu vois que rien que pour Ubisoft, je sais plus pour quel Assassin's Creed, ils étaient plus de 1000 personnes à bosser dessus.
Voilà.
Si Nintendo on leur demande de mettre 1000 personnes sur un jeu et on va dire mais vous êtes fous les mecs
ça,
ou quoi.
C'est pas mal.
On n'est pas assez.
Enfin bref, si ça se trouve depuis tout à l'heure on parle sur un truc et c'est que des rumeurs qui sont pas fondées du tout, mais vous aurez compris qu'en tout cas la perspective nous séduit et qu'on est enthousiaste.
Ouais, on attendra quand même d'avoir l'annonce à l'E3 et pour voir à quoi ça ressemble et pour voir si on révise notre jugement ou pas, parce que là on est un peu en mode fantasme un peu je pense.
Oui mais par contre ce qui est sûr c'est que la Wii U
bye bye
pas... Bye.
Ah.
Au revoir. Enfin bref, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête pour cette semaine.
Ouais.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Salut.
Ciao.